Vous écoutez « On lit pour vous ».
Le mystère de l'origine des baobabs, enfin résolu, un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 janvier 2025 dans la presse. Le baobab fait partie des symboles de l'Afrique, mais ses racines font depuis longtemps débat. Selon une étude chinoise, l'arbre emblématique, notamment pour le Petit Prince de Saint-Exupéry, serait né à Madagascar. Génétique. Tout a commencé avec une histoire digne du ciné-cadeau du temps des fêtes. Plus précisément, avec Antoine de Saint-Exupéry. Quand j'ai lu Le Petit Prince, j'ai été frappé par les arbres. Ces arbres, aussi grands qu'un château, explique Yun Nan Wan, du jardin botanique de Wuhan, l'auteur de l'étude publiée en mai 2024 dans Nature. J'ai eu la chance, grâce au jardin botanique, d'aller à Madagascar. Quand j'ai touché l'écorce du baobab, j'ai décidé de découvrir son histoire. À noter, Saint-Exupéry comparait plutôt les baobabs à des églises. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que, si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. Le baobab serait apparu il y a 41 millions d'années et serait resté confiné à Madagascar pendant les premières 30 millions d'années de son existence. Encore aujourd'hui, 6 des 8 espèces de baobab n'existent qu'à Madagascar. Dans l'île, certaines espèces poussent dans certaines régions et pas dans d'autres. Le baobab africain, qui est arrivé par les Comores, existe aussi à Madagascar. Australie. Le baobab a migré vers l'Australie en flottant sur la mer. Pour étayer ce point, l'étude chinoise cite une étude française publiée en 2014 dans la revue Bois et forêts des tropiques. Quand j'ai commencé à travailler sur les baobabs à Madagascar, j'ai remarqué qu'ils étaient souvent en bord de mer, explique Cyril Cornu, biologiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD, et auteur principal de l'étude française. J'ai donc voulu tester si les gousses du baobab restent fertiles après un séjour en mer. Le sel de l'eau de mer prépare le fruit. Il devient plus poreux et absorbe plus rapidement l'eau de pluie, donc fleurit plus rapidement, indique M. Cornu. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'autres disséminations marines du baobab sur de grandes distances? L'arrivée du baobab en Australie a probablement découlé d'une série de coïncidences, avance M. Cornu. Il y avait peut-être des tempêtes plus fréquentes, des courants marins disparus, et aussi la présence d'îles aujourd'hui disparues entre Madagascar et l'Australie. Biodiversité. L'étude chinoise renforce l'importance de lutter contre la disparition des espèces malgaches de baobab, qui sont dotées de gènes permettant la survie dans différents environnements. D'ici 20 à 30 ans, selon Cyril Cornu, les forêts ancestrales de baobab pourraient disparaître à Madagascar. Les paysans pratiquent de l'agriculture de subsistance et brûlent les forêts pour cultiver plus de terres. La rareté des bonnes routes complexifie le développement économique, notamment à cause des obstacles naturels qui ont favorisé l'apparition d'autant d'espèces séparées de baobab. Les creuseurs de baobab. Cyril Cornu a quelque peu délaissé la recherche pour s'occuper d'une cause, sauver les baobabs. À Montréal, plus tôt en 2024, il a présenté son documentaire « Mamodi, Le dernier creuseur de Baobab, au Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Ce film explore la capacité des baobabs à survivre avec le tronc évidé pour conserver de l'eau. Chez les arbres, le duramen, partie centrale de l'arbre, est composé de cellules mortes, dit M. Cornu. Le duramen sert de squelette rigide à l'arbre. Chez les baobabs, tout est vivant. Il n'y a pas de duramen. Cette particularité leur confère des capacités de régénération exceptionnelles. Le baobab est aussi utilisé comme matériau de construction et pour faire des textiles, de l'huile et une boisson similaire au café. Il est aussi important dans la spiritualité autochtone. En savoir plus. De 5 à 7 mètres. Circonférence d'un baobab. Source, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. C'était Le mystère de l'origine des baobabs enfin résolu, un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 janvier 2025 dans la presse.
Des concombres explosifs aux mains des babouins. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 12 janvier 2025 dans la presse. Les biologistes font chaque année des découvertes importantes, émouvantes ou surprenantes. Voici quelques-unes de leurs trouvailles récentes. L'araignée pirate de Sainte-Hélène. Une araignée qui envahit les toiles d'autres espèces figure parmi les 190 nouvelles espèces découvertes en 2024, selon le Musée d'histoire naturelle de Londres. Hero Lise, qui vit dans les forêts de l'île britannique de Sainte-Hélène au large de l'Afrique, se nourrit des araignées d'étoiles qu'elle envahit, puis elle s'en sert pour attraper des insectes. Une autre araignée pirate a aussi été découverte dans le lieu d'exil de Napoléon. Un carnage en Alaska. De 2014 à 2016, des vagues de chaleur océanique ont tué la moitié des 4 millions de guillemots de Troil de l'Alaska, un pingouin arctique. C'est la plus importante mortalité du genre jamais enregistrée, selon des biologistes du service faunique du gouvernement américain. En décembre 2024, dans la revue Science, ils ont précisé que les populations de cet oiseau de l'Alaska n'ont pas encore repris leur vigueur, ce qui entraîne une cascade d'effets dans l'écosystème. Des concombres explosifs. Une plante méditerranéenne, Ecbalium elaterium, aussi appelée concombre d'âne, éjecte ses semences à une vitesse de 70 km/h. Des chercheurs de l'Université d'Oxford décrivent pour la première fois en détail comment le phénomène se produit. Un fluide remplit le fruit du végétal sur plusieurs semaines, ce qui augmente la pression et provoque le positionnement du fruit à un angle optimal de 45 degrés pour projeter les semences jusqu'à une distance de 10 mètres. Après la rupture du fruit, la pression diminue, ce qui l'abaisse et permet de répandre la semence plus près, racontent les biologistes dans la revue PNAS, publiée en novembre 2024. Le goût de l'oxygène. Les larves de poissons zèbres, une espèce du sud-est asiatique, sont capables de mesurer le taux d'oxygène de l'eau avec leurs papilles gustatives, indiquent des chercheurs de l'Université d'Ottawa. En septembre 2024, dans la revue Current Biology, ils ont expliqué que cette capacité, qui n'avait jamais été observée auparavant, leur permet de changer les paramètres de leur respiration. Les mains des babouins. On peut déterminer dès le sevrage si un babouin sera droitier ou gaucher dans ses communications par geste, selon des biologistes du CNRS français. En juin 2024, dans la revue Nature Communications, il montre qu'une asymétrie précoce des neurones d'une région du cerveau du babouin le mène à utiliser sa main droite pour communiquer. cette région du cerveau est liée au langage. Les deux tiers des babouins ayant cette asymétrie du cerveau sont donc droitiers pour communiquer. Sans cette asymétrie, ils utilisent les deux mains pour communiquer. Ces travaux montrent aussi qu'un babouin peut être droitier au chapitre du langage, mais gaucher pour manipuler des objets. Des baleines centenaires. La baleine franche australe vit souvent jusqu'à 130 ans, selon des biologistes de l'Université de l'Alaska. En décembre 2024, dans la revue Science Advances, ils ont démontré que les âges maximum rapportés pour les baleines, 150 ans, ne sont pas des exceptions, mais bel et bien un vieillissement normal. Ils ont analysé des données historiques et montré que les baleines franches australes vivaient deux fois plus longtemps que les baleines noires, même si elles sont des espèces cousines. Ils attribuent cela à l'influence délétère du trafic atlantique sur les baleines noires. C'était « Des concombres explosifs aux mains des babouins », un texte de Mathieu Perrault, paru le 12 janvier 2025 dans La Presse.
La Croix du Mont-Royal a 100 ans. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 17 décembre 2024 dans Le Devoir. La Croix du Mont-Royal a 100 ans en 2024. Le multimillionnaire Luc Poirier la pointe du doigt. À cause d'elle, raconte-t-il en entretien au Devoir, il n'a pas pu construire un immense gratte-ciel sur les flancs de la montagne. Est-ce bien vrai? À compter du printemps 1924, cette croix en acier fut érigée grâce à une souscription lancée par la Société Saint-Jean-Baptiste. Plus de 100 000 enfants la financèrent par la vente de timbres au coût de 5 sous chacun. Ce financement populaire permit d'amasser 10 000 $, l'équivalent aujourd'hui d'un peu plus de 250 000 $. Des croix du genre poussaient un peu partout. Montréal, la métropole du Canada, se promettait d'en avoir une parmi les plus imposantes. Elle devait même être juchée sur un bâtiment dont l'idée finit par être abandonnée, faute de moyens. L'immense croix de métal se veut un rappel de celle, tout en bois, qu'avait plantée là, en janvier 1643, Paul de Chaumédée. Le père fondateur de la minuscule cité coloniale voulait, de la sorte, remercier les cieux d'avoir épargné, in extremis, le fort de Ville-Marie de la montée des eaux le 24 décembre précédent. Sait-on qu'au 19e siècle, les ultra-catholiques de la ville avaient projeté d'ériger sur la montagne une statue géante de la Vierge Marie? Eût-elle vu le jour que cela aurait donné à Montréal de vagues allures de Rio de Janeiro avec son Christ géant planté au haut du Corcovado en 1922? En novembre 2015, en se portant acquéreur de l'ancien site de l'hôpital de Montréal pour enfants, Luc Poirier n'avait pas pensé que la croix le bloquerait dans ses projets, raconte-t-il. « Nous voulions construire sur ce site la plus haute tour au Canada, une tour de 100 étages selon la méthode Hopbrella. Ce genre de construction, explique-t-il, permet d'arrêter et de reprendre le projet plus tard, si le contexte économique n'est pas bon. » Luc Poirier n'en démord pas. Selon lui, il s'est révélé impossible de réaliser ce gratte-ciel en raison de la croix. J'avais rencontré Denis Coderre à ce sujet, quand il était maire. Selon ce qu'il affirme, le maire Coderre lui aurait dit qu'il n'était pas possible de construire plus haut que la croix du Mont-Royal en raison d'un vieux règlement à cet effet. Coderre m'a dit qu'il ne voulait pas se battre contre ce règlement. Ça a été fait dans le temps de la religion, ce règlement. Il était d'accord que c'était dépassé, mais il ne voulait pas se battre contre. De son côté, Denis Coderre dit se souvenir parfaitement de l'affaire. Luc Poirier s'est trompé. Ce n'est pas la croix, mais l'oratoire Saint-Joseph qui est en cause. Selon l'ancien maire de Montréal, il n'est pas possible de construire plus haut que l'oratoire dans ce secteur pour ne pas entraver la vue. l'ex-maire Coderre dit cependant ignorer s'il s'agit des conséquences d'un règlement particulier, mais il affirme que c'est dans les conventions de respecter des seuils pour les hauteurs des nouveaux bâtiments à Montréal. Je n'ai jamais dit non au projet de Poirier, mais je voulais qu'on fasse le débat sur les hauteurs de façon globale, explique l'ex-maire au Devoir. Le débat sur les hauteurs n'a pas eu lieu. Je pense qu'on est dû pour le faire. Si c'est une question de vue, je comprends. Mais si c'est juste pour la hauteur par rapport à la croix, faudrait se poser des questions sur la laïcité. En 2021, dans son livre intitulé « Retrouver Montréal », l'ouvrage qui lui servait de plateforme électorale pour retrouver un siège de maire, Denis Coderre suggérait de réfléchir à la verticale plutôt qu'à l'horizontale pour parvenir à densifier Montréal. Si nous souhaitons un centre-ville de classe mondiale, grandissant d'année en année, nous devrons dépasser la hauteur de la croix du Mont-Royal avec nos gratte-ciels, écrivait-il, tout en reconnaissant qu'il s'agit là d'une question délicate. Que vient faire la croix dans tout ça? Robert Baudry, conseiller de la ville au comité exécutif, précise que ce n'est pas la hauteur de la croix qui est en cause dans les choix des élévations des constructions à Montréal, mais plutôt le plan d'urbanisme et le plan d'urbanisme et de mobilité de la municipalité. C'est là que sont précisées les élévations maximales. Le choix a été fait de préserver les vues et les caractères emblématiques de la montagne. Il est prévu que les bâtiments ne soient pas d'une hauteur supérieure à la côte altimétrique de 204 mètres, soit le sommet le plus bas du Mont-Royal. Et rien ne doit dépasser les 232,5 mètres au-dessus du niveau de la mer, afin que la montagne qui donne son nom même à la ville soit maintenue en point de mire. Vous écoutez La Croix du Mont-Royal à 100 ans. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 17 décembre 2024 dans Le Devoir. Une croix célébrée en 1992. En 1924, c'est la compagnie Dominion Bridge qui se voit confier le travail de tailler des poutres d'acier et de les assembler en forme de croix. Les travaux sont réalisés selon les plans de Pierre Dupaigne, un religieux qui appartient à la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, les anciens seigneurs de Montréal. De son côté, la Montreal Light, Heat and Power, une compagnie d'électricité, offre d'éclairer l'ensemble gratuitement à l'aide de 240 ampoules de 75 watts. À l'occasion d'événements particuliers, comme l'arrivée d'un nouveau pape, les ampoules blanches sont changées par des ampoules de couleur. Des ouvriers courageux grimpent sur une échelle pour accomplir cette tâche. En 1975, elle apparaît toute bleue pour les fêtes du 24 juin. Par temps clair, depuis un siècle, la croix est visible à plus ou moins 80 km à la ronde. En 1992, dans le cadre des célébrations du 350e anniversaire de la Fondation de Montréal, la croix continue d'être centrale. Une installation de fibre optique remplace le vieux système d'éclairage. Elle permet de changer la couleur de l'éclairage plus rapidement. Sous une plaque qui souligne le 350e anniversaire sont scellés des messages et des dessins de 12 000 enfants. La capsule doit, en principe, être ouverte de nouveau en 2142 pour le 500e anniversaire de la ville. En 2019, d'importants travaux de réfection de l'oratoire Saint-Joseph ont conduit à la mise au jour d'ossements autochtones plusieurs fois centenaires sur le site de la montagne. Ce n'était pas la première découverte archéologique du genre. La montagne a servi d'espace de sépulture durant des millénaires. Pour des autochtones, la croix de 1924 est envisagée désormais par certains comme un élément profanateur. Au printemps 2022, un groupe autochtone appelé les Mères Mohawk, Canyon Kick-Ha-Ka, affirmait même qu'il était temps pour la ville de se débarrasser de ce symbole religieux. Porter sa croix. Ce n'est donc pas la hauteur de la croix de méthane qui impose la hauteur des bâtiments à Montréal, mais bien des considérations urbanistiques en lien avec la protection de la montagne, confirme Robert Baudry du comité exécutif. Dans ce cadre, le réaménagement du site de l'ancien hôpital de Montréal pour enfants était tout de même devenu une croix trop lourde à porter pour Luc Poirier. Son projet de gratte-ciel monumental s'y trouvait contrecarré. Il a donc pris la décision, explique-t-il au Devoir, de revendre le site au promoteur Devinco. Et c'est Devinco, finalement, qui a aménagé le Square Children's, des tours beaucoup moins hautes que celles que Luc Poirier envisageait de planter près de l'avenue Atwater et du boulevard René-Lévesque. Reste que Luc Poirier se dit encore agacé par cette histoire de croix sur le Mont-Royal qu'il tient pour responsable de cette situation. C'est toujours un irritant. Oui, Toronto, Vancouver, Calgary peuvent construire en hauteur, mais pas nous. Si un jour le règlement change, peut-être qu'on pourra en faire une tour. La croix, c'est une vieille affaire du temps de la religion. Pour lui, il ne fait nul doute qu'il faut penser à ériger des tours géantes à Montréal. Au moins une. La sienne, de préférence. Une tour, ça permet d'avoir plus d'air de vie au sol. Une tour très mince peut aussi donner plus de soleil à ses occupants, explique-t-il pour en vanter les mérites. En attendant, Luc Poirier a cru bon se tourner du côté de Laval pour réaliser son projet de gratte-ciel à 100 étages. « J'ai essayé de faire la tour du côté de Laval », explique-t-il. Cependant, il n'a pas plus de succès de ce côté, bien qu'aucune croix juchée sur un sommet ne soit là-bas en cause. C'était la croix du Mont-Royal à 100 ans, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 17 décembre 2024 dans Le Devoir.
Le retour de l'enfant prodigue patenteux, hommage à un employé, un texte d'Ulysse Bergeron paru le 3 janvier 2025 dans la presse. Après près de 20 ans à œuvrer comme gestionnaire pour des entreprises privées, Daniel Leboeuf est finalement revenu travailler chez Groupe TAQ, une entreprise d'économie sociale qu'il a fondée dans les années 1970. Son employeur souligne aujourd'hui la contribution de cet homme calme et humble qui prévoit prendre sa retraite dans quelques mois. C'était à la fin des années 1970, se souvient Daniel Leboeuf. Il n'y avait pas d'entreprise au Québec qui avait pour mission de faciliter l'intégration dans le marché du travail des personnes avec un handicap, rappelle-t-il. Le gouvernement de René Lévesque venait pourtant d'adopter la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, dont l'un des objectifs était de faciliter leur accès au marché du travail. Compte tenu de la volonté gouvernementale d'appuyer les nouveaux projets allant en ce sens, les astres étaient alignés pour que M. Leboeuf démarre une entreprise d'économie sociale, Groupe TAQ. « Il faut être au bon moment, au bon endroit, dit-il, mais surtout, il faut s'en rendre compte. » Groupe TAQ a depuis fait son petit bonhomme de chemin en offrant des services de sous-traitance à des entreprises pour divers travaux, assemblage, emballage, étiquetage, entreposage. En 45 ans, le nombre de salariés est passé de 18 à 450, dont 360 sont des personnes avec un handicap. Car sa mission reste la même, favoriser l'intégration socio-professionnelle de gens avec des limitations fonctionnelles en développant des partenariats d'affaires. Or, dans les années 1990, Daniel Leboeuf a quitté l'entreprise pour travailler dans le secteur privé. Une parenthèse qui aura duré près de 20 ans. En 2018, il est revenu à ses premières amours comme employé cette fois. « Je me suis gardé ce que j'aime le plus, trouver des solutions et être près des gens qui travaillent, sourit l'homme de 71 ans qui projette sa retraite en mars 2025. Même s'il ne travaille plus que 3 jours par semaine, M. Leboeuf reste un pilier de l'organisation, assure Gabriel Tremblay, directeur général de Groupe TAQ, qui souhaitait lui rendre hommage dans la presse. Daniel a toujours bien compris l'univers dans lequel on travaille. Il a toujours réussi à s'organiser pour que les gens collaborent. M. Tremblay parle en connaissance de cause. Il connaît Daniel Leboeuf depuis près de 40 ans. C'est d'ailleurs lui qui l'a convaincu de revenir travailler chez Groupe TAQ. Son bureau est à côté du mien. Je le vois quotidiennement discuter avec des jeunes. Il peut aussi bien les aider sur le plan professionnel qu'écouter leurs états d'âme. Il est toujours là pour calmer le jeu et pour s'assurer que tout soit fait adéquatement. Mais au-delà du côté humain, Daniel est un patenteux, sourit Gabriel Tremblay. Un atout d'importance pour une entreprise dont la mission est de faciliter l'intégration au marché du travail de personnes ayant un handicap. Il est capable d'analyser la tâche demandée et de s'organiser pour former des gabarits pour le travail qui permet aux gens qui ont des limites de s'impliquer dans la production. Il est capable techniquement de penser différemment pour amener les gens à travailler. Il cite l'exemple d'un contrat obtenu avec l'UMCA. L'entreprise de Longueuil avait eu un important contrat avec la Ville de Montréal et une partie de l'assemblage devait se faire chez Groupe TAQ. C'était compliqué, raconte Gabriel Tremblay. Mais Daniel a analysé en détail ce qui devait être fait. Il a divisé cela en tâches faciles à réaliser. Un employé pouvait se concentrer sur telle étape, alors qu'un autre devenait spécialiste de telle autre étape. Je n'ai jamais regardé les gens qui ont des limitations avec pitié. Ça fait partie de mon approche. J'ai la certitude que tout le monde peut travailler et faire beaucoup. Il faut simplement trouver ce qui permet à quelqu'un de bien faire son travail, dit Daniel Leboeuf, non sans humilité. Gabriel Tremblay conclut. Daniel a toujours bien compris l'univers dans lequel on travaille. Il a toujours réussi à s'organiser pour que les gens collaborent. C'était le retour de l'enfant prodigue patenteux, hommage à un employé, un texte d'Ulysse Bergeron, paru le 3 janvier 2025 dans la presse.